Et ben là, on est en train de se diriger vers la maison de l'homme python, enfin l'homme python, l'homme propriétaire d'un python, dans le bas de Monoblé. Donc là, on est en train de descendre une petite calade fort mignonne entre un paddock et une petite forêt. Et donc, on se dirige vers la maison de. Comment il s'appelle?
Il s'appelle Guillaume, l'homme au python.
Guillaume.
Cheval bonhomme rouge là,
Radio Monobloc.
Guillaume, du coup, chez toi t'as un python, mais t'es aussi le pâtissier de Monoblé.
Je me suis installé il y a pas longtemps, donc voilà, je fais des macarons, des pâtisseries.
Ils sont à quoi les macarons là?
Donc alors là, il y a fruits de la passion, fèves de tonka, chocolat au lait. Celui-là c'est amandes noisettes, caramel beurre salé, pistache fleur d'oranger. Et bon, ça c'est ce qu'il y a là, mais après j'ai plein d'autres parfums, framboise, mangue, je sais pas, citron, chocolat noir.
C'est lequel celui que t'as inventé?
C'est celui-là, c'est l'amande noisette. En fait, j'avais envie de faire un macaron à la noisette. Alors, dans la coque, là, c'est la coquille du macaron, c'est fait à base de poudre d'amande. C'est une meringue à base de poudre d'amande. Et j'ai remplacé la poudre d'amande par une partie de poudre de noisette. Et après, la crème qui est à l'intérieur, c'est une crème au chocolat et à l'amande et à la noisette. Au praliné, en fait.
Ah ouais, trop bien.
J'ai juste une question avant de goûter. Il fait frais chez toi, c'est pour le piton ou pour les pâtisseries?
Non, le piton il a besoin de chaleur. Non, c'est là on est chez moi, donc c'est pour le plaisir pour moi. Mais dans mon laboratoire il y a la clim et pour le piton il y a le chauffage. Mais en été je le coupe parce qu'il fait quand même chaud et il a assez de chaleur parce que c'est un animal à sang froid et donc.
Je crois que je vais reprendre un autre macaron.
Allez-y. Ouais, moi je crois aussi le premier il était très bon.
Caramel beurre salé, noisette.
Pistache, il était
ouais, c'est
d'enfer.
Voilà.
Donc on va voir le labo de pâtisserie avant d'aller voir le python.
Petit laboratoire avec tout ce qu'il faut pour usiner des gâteaux.
Et alors là, qu'est-ce que tu es en train de préparer?
Ça, c'était une tarte, c'est une tarte abricot pistache.
Et donc là, tu as tout ce qu'il faut pour être en indépendant, préparer tout ce que tu veux.
Voilà, j'ai tout ce qu'il faut en miniature, mais j'ai tout ce qu'il faut.
C'est marrant parce qu'on entre dans ta maison et là, tout d'un coup, on monte à l'étage, on a l'impression d'être dans un restaurant.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse une journée porte ouverte pour un peu montrer aux gens qu'il y a vraiment un laboratoire de pâtisserie et que c'est pas dans ma cuisine que je fais ça, quoi. Enfin, il faut m'appeler et je vois avec la clientèle. Qu'est-ce qui leur fait plaisir? J'ai toujours des macarons et puis je peux proposer entre 3 et 4 gâteaux différents. Je suis en place pour faire toujours quelques gâteaux, quoi.
Guillaume nous a laissé sa carte. On se permet de lui faire un peu de pub sur Monobloc. Pour goûter ses macarons et ses gâteaux, il faut l'appeler au 06 82 96 55 26. Mais en mangeant, on en est quand même venu à parler de ce qui nous amenait au départ, le fait que Guillaume ait dans son salon un python.
Depuis 2005. 2005, et il me semble que ça vit 25 ans environ. Donc il va rester encore un peu. Bah, ça m'a passionné depuis petit, hein, j'en ai toujours voulu en fait, ça me plaisait quand j'étais enfant. Puis j'ai toujours aimé ça un peu en grandissant, ça me plaisait toujours. Quand j'étais enfant, mes parents ne voulaient pas que j'aie un python ou un boa. Et quand j'ai été adulte, eh ben, je m'en suis pris un quoi, quand je pouvais. Je sais pas, ça me plaît, j'aimais bien ça, j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant. Et voilà, et puis je trouve ça aussi gracieux, c'est beau quoi, je sais pas, ça me plaît. Et puis voilà, moi malheureusement quand j'aime bien quelque chose, et ben j'essaie de le faire ou de l'avoir quoi. Donc voilà.
T'avais quel âge quand tu l'as acheté?
J'avais 22 ans.
Ah oui, c'est vraiment quasiment dès que t'as pu le faire, tu l'as fait en fait.
Ouais, dès que je suis rentré des Antilles, moi c'est en baladant à Paris là, sur les quais de la Mégisserie, et je suis retombé sur les serpents et puis voilà, j'ai vu que c'était accessible et donc j'ai pas mal bouquiné, j'ai appris d'abord avant de faire venir mon serpent, j'ai tout préparé pour son arrivée quoi. Parce qu'il faut pas acheter le serpent et puis après préparer le terrarium, il faut vraiment tout préparer parce que c'est quand même, c'est compliqué tout en étant facile aussi. Une fois que tout est prêt, que le terrarium est prêt, il y a plus grand chose à faire à part lui donner de l'eau fraîche et à manger. Et très peu de nettoyage, mais c'est l'installation qui est un peu plus compliquée parce que bon, il y a des températures à respecter, il y a une zone du terrarium qui doit être chaude et une zone un peu plus fraîche. Et voilà, préparer bien son habitacle, c'est quand même un petit peu compliqué, j'ai envie de dire. Faut s'y intéresser, faut apprendre petit à petit quoi. Après, moi, je suis loin d'être un expert et je suis loin de tout savoir, j'imagine. Même à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'on sache tout sur les reptiles. Hein. Dans les bouquins, ils en parlent, mais c'est un peu vaste. C'est pas une bestiole qu'on maîtrise bien comme un chien ou comme
Et est-ce que quand on a un animal comme ça, est-ce qu'on doit le déclarer ou est-ce que...
Alors quand tu l'achètes, ouais, c'est déclaré. Moi, mon python, il a ses papiers, quoi. C'est pour éviter la contrebande. Donc oui. Après, tu as le droit d'en avoir, t'as pas le droit de faire la reproduction. Ou tu as le droit, mais il faut se mettre aux normes et il faut... Enfin, il y a une démarche à faire, quoi. Voilà.
Et toi, t'en as jamais peur ?
Non, aujourd'hui, non, j'en ai pas peur. Après, au début, j'en ai eu un petit peu peur. Et puis, de toute façon, c'est pas un animal comme on a... Comme, enfin, moi je l'ai pas comme un chat ou comme un chien où j'y fais des câlins tous les jours. C'est, voilà, c'est, il reste dans son terrarium et de temps en temps, je le sors. Souvent quand les gens le demandent, en fait. Mais moi, je le prends rarement sur moi.
Il s'appelle
Roger. Alors, je l'appelle pas parce qu'un serpent, c'est sourd. Hein. Un serpent, ça n'entend rien.
Donc, il se reconnaît pas.
Il se reconnaît pas, non, non. J'ai appelé Roger parce que tout le monde me demandait comment il s'appelle. Et puis, au début, je pensais pas trop lui donner de nom, quoi. Puis, je sais pas, j'ai dit Roger. Voilà.
Valbono Bougna, Radio Monobloc.
Donc voilà le terrarium, donc la zone froide qui est à droite, la zone plutôt chaude qui est à gauche. Après, il y a des fils chauffants qui sont dissimulés derrière les plantes. Il y a des plaques chauffantes, il y a des pierres chauffantes. Tu vois, ça c'est une pierre chauffante, là-bas il y en a une autre. Il y a des tapis chauffants. Il en faut aussi toujours un sous son bac d'eau. En bas à gauche, là, il y a le bac d'eau. Parce que ça a besoin d'un taux d'humidité assez élevé. Donc plus il y a d'humidité, mieux c'est, quoi. Il a besoin d'un climat tropical, donc il faut de la chaleur et de l'humidité.
Alors pour décrire un peu, c'est vraiment incrusté à l'intérieur du mur de ton salon.
Voilà, il y a une cloison et en fait c'est le terrarium est incrusté dans le faux fond, quoi. Et lui là, il est...
Alors là tu disais que le python se cache un peu parce qu'il a mangé, c'est ça ?
Ouais, il vient de digérer, il a mangé il y a 2-3 jours là.
Il a mangé quoi ?
Un gros rat, quoi. Ouais, il va essayer de se planquer, je pense. Ouais, j'arrive pas. Puis lui quand je vais le soulever, ça va le stresser, il va se gonfler comme ça. Du coup, je sais pas si je pourrais remettre le doigt. Roger. Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci. Oh, il est gros, il doit faire 1m40 à peu près.
Donc là, il est tout enroulé sous les écorces, sous les morceaux de bois.
Ouais. Alors, une chose à savoir, en fait, quand tu vois un serpent, là, il n'est pas en mode attaque. Il ne faut juste pas gesticuler devant lui. Le serpent, il va attendre, il met sa tête en ressort. Dès que la souris va passer devant lui, et bien, c'est là qu'il va mordre. Alors toi, s'il t'attaque, toi, il va pas te mordre, il va juste taper avec sa tête, la bouche ouverte, parce qu'un serpent, quand ça commence à manger, ça peut plus s'arrêter. Donc, et là, il nous voit très bien, et il sait très bien qu'il arrivera jamais à te manger, donc il essayera pas de te mordre, il te tapera juste avec ta main. Donc il y a vraiment aucun risque, hein, vraiment. C'est...
Les pitons, ça étrangle, c'est ça ?
Oui, c'est constrictor. Alors, comme la majorité des serpents, hein, il me semble qu'il y a 2700 espèces de serpents, et sur les 2700, il y en a que 700 qui ont du venin. Tous les autres étouffent leur proie. Voilà, puis ça va vraiment très très vite. Hein.
Et alors quand ils mangent, ils restent sans bouger pendant longtemps ?
Bah, tout dépend de ce qu'ils mangent, tout dépend, pas forcément. Hein, des fois ils bougent juste après, hein, mais une fois qu'il s'est calé dans son trou pour commencer à digérer, ouais, ça va prendre. Ça dépend de la taille de ce qu'il a mangé. Hein. Mais entre 3 jours et une semaine, là je sais qu'avec le rat qu'il a mangé, il y en a pour une semaine. Hein.
Mais alors il mord le python aussi, il fait pas que étouffer ?
Bah oui, d'abord il attrape la proie avec sa bouche. Il a des dents là qui vont vers l'intérieur là. Et ouais, et d'abord il la mord et puis il ramène la souris vers lui en s'enroulant autour de lui. Après il serre. Et plus la souris se débat, plus il serre.
Là, quand il a mangé un rat par exemple, le rat il le mange d'un coup. Comment il fait ?
Il mange d'un coup, toujours d'un coup. Normalement, il commence toujours par la tête. Hein. Dans le sens du poil, et puis tout doucement, il avance et il avale.
En combien de temps ?
Bon, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de sa forme à lui, ça dépend de la taille de la bestiole. Là, le rat, qui était quand même bien gros, là, il a dû le manger, ça a dû durer pas 10 minutes, mais presque.
Et tu lui cuisines des pâtisseries, parfois ?
Ah non, 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 je ne cuisine rien, il mange que du cru et que du vivant. Si j'ai mis une bestiole morte, il la mange pas. Il a besoin de la tuer lui-même et de la bouffer.
Il chasse à l'intérieur de son...
Ouais, bah en fait, il chasse. S'il a très très faim, s'il a la dalle, il va foncer sur la souris. Mais en général, il attend que la souris se présente devant lui. Et là, le rat, comme il était vraiment gros que je lui ai donné dernièrement, je l'ai tué et puis je lui ai donné après. Avec une pince, là, de loin, je l'ai animé un peu. Il était dans son trou, là-bas. Je l'ai animé un peu sur la branche, histoire de lui faire croire qu'il bouge, quoi. Puis dès que j'ai commencé à le faire reculer pour faire comme si ça allait s'en aller, lui s'est avancé, c'est là qu'il a attaqué.
T'as bougé le rat pour faire semblant, pour faire comme s'il était en vie.
Ouais, parce que s'ils sont morts, ils les mangent pas. Je sais pas pourquoi, ils veulent pas manger du mort. Parce que les gens qui ont des serpents, ils prennent la nourriture pour le serpent en surgelé dans les animaleries. Ils te vendent ça, et des rats ou des rongeurs en surgelé. Donc ils les décongèlent, ils les font tremper dans l'eau tiède et puis, pour le mettre à température, et puis ils donnent. Et leur serpent le mange, mais le mien non. Il mange que des bêtes vivantes.
Et alors là, il est en train de digérer, mais de temps en temps, tu sors et tu le sors et tu le prends.
Ouais, alors quand je le sors, c'est plus en été qu'en hiver, parce que par rapport aux températures. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je le sors pas souvent. Hein. Mais de temps en temps, ouais, ça m'arrive de le sortir. Mais généralement, c'est plus souvent quand il y a des gens qui veulent toucher le serpent ou voir.
Et tu le sors dehors ou juste
dehors, de temps en temps, mais c'est rare. Et je fais attention et je reste à côté parce qu'il a très vite fait de partir. Et puis dehors, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des animaux. Et puis ça peut très vite partir. Hein. Mais c'est un animal nocturne. Alors il sort nocturne. Alors il sort le soir et le matin, la nuit, mais pas la journée. Donc moi, si je le sors, il va bien aimer. Hein, il va balader un peu, mais je reste à côté parce que sinon, je le retrouve pas, quoi.
Et tes voisins, ils en pensent quoi ?
Et je sais qu'il y en a qui en ont très peur. Et voilà, après, bon, bah, de toute façon, je pense qu'ils ont confiance en moi. Ils savent que je ne vais pas le laisser en liberté. Puis, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment inoffensif.
C'est lourd quand tu le prends ?
Ah ouais, quand même. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd et c'est froid en plus. Alors, c'est ça qui est particulier.
C'est comment la texture ?
Ouais, c'est dur. Hein. C'est lisse et dur. C'est que du muscle, hein, ça. C'est un tas de muscles. En plus, là, il a sa tête. Je pense que c'est pas la peine d'essayer de le toucher.
À sa tête, pourquoi il a l'air comment, là ?
Il est en mode je reste tranquille. Quand ils se mettent en boule avec la tête au milieu des anneaux, c'est qu'il veut être tranquille et qu'il n'a pas l'intention d'attaquer. Quand il veut attaquer, on voit, il avance sa tête et il se met en S, vraiment, quoi. Et quand sa tête est en S, c'est vraiment. Elle est en ressort prêt à se détendre et ça va très très vite. Hein. Ça va une vitesse, c'est impressionnant. Tu le vois, hein, quand il chasse, tu le vois bien, il se met dans sa grotte et il laisse sortir que l'avant de sa tête, en S, quoi, un grand S, et voilà, prêt à attaquer, quoi.
C'est un serpent python, c'est un python serpent, qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin. Ou bien un nègre fin, car le serpent python a faim, il a une faim sans fin. Les bêtes et gens sont partis hier, loués par la métro Goldwyn Mayer, pour figurer dans un film de Tarzan, il va rapporter beaucoup d'argent. Mais le serpent piteux est triste et se mord la queue, car il comprend au désespoir qu'il ne mangera pas ce soir. Soudain le bois s'éveille, arrivent des appareils de prise de vue, de prise de son. C'est la scène du grand frisson. On lâche des animaux, des lions et des rhinos, séroces qui ont l'air féroces comme tout, mais sont doux comme des toutous. Notre serpent du haut d'une branche en l'air voit monsieur Johnny Weissmuller, qui fait joujou avec un éléphant. Quelle jolie table pour les enfants. Mais tant de cinéma ne remplit pas l'estomac du pauvre python qui n'aura pas de repas. Quand une idée subtile germe au cœur du reptile, profitant d'une répétition, voici qu'avec précaution, dans l'ombre du crépuscule, il avance, il recule, puis happe un morceau minuscule, un morceau de pellicule qui dépassait d'une boîte en fer. C'était la grande scène du Val d'Enfer, tournée le matin dans une cloche à plongeur pour mieux voir évoluer le nageur. Et comme un spaghetti, le piton, en appétit, avale 200 mètres à présent des aventures de Tarzan. Puis il s'en va joyeux, pensant c'est merveilleux. Je vais dormir maintenant 3 semaines, digérer ce film sans peine. Rampant par-ci par-là, il s'enroule, oh là là, autour d'un cocotier géant. Mais soudain s'écrie géant, géant, j'ai envie de vomir, c'est affreux, tu m'as empoisonné. Cinéma, Tarzan n'est pas pour les pauvres pitons, j'allais mal jusqu'au bout des tétons. Et la moralité du piton dépité,
c'est que parfois trop de ciné-parleurs peut vous donner mal au cœur, ou que les hommes digèrent, dit-on, mieux que les serpents, mieux que les serpents, pitons.